une question se pose, quelle est la valeur de la loi orale? Lorsque Dieu donne la Torah au Mont Sinaï, c'est écrit que les anges étaient jaloux. Moshé Rabbeinu est monté au ciel et les anges n'ont pas voulu qu'ils prennent la Torah. Alors Dieu lui a dit, donne-leur une réponse. Alors on va faire en cours, leur expliquer en deux mots que ce n'est pas adapté à eux. Toutes les lois de la Torah correspondent à ce monde-ci. Mais qu'était le débat profond? Le débat profond était que Hachem a donné la Torah au peuple juif. Et les sages d'Israël, c'est eux qui vont orienter, qui vont définir ce que dit la Torah. La Torah, au niveau de la loi écrite, elle est extrêmement vague. Viennent les sages d'Israël et disent « c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Ils n'ont pas inventé. Ils ont reçu ça de Moshe Rabbeinu lui-même. Mais il y a des développements, etc. Il y a tout un travail d'exégèse, comme on dit, d'analyse de la loi écrite qui amène à certaines conclusions de la loi orale. Et ça, les anges n'avaient pas. Ils ne voulaient pas que les hommes vont fixer la Torah. Il y a beaucoup d'exemples de ce type-là. Une fois, il y a eu une machloket, une divergence d'opinion entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer à propos d'un four. À l'époque, les fours étaient faits en terre, poterie, et dans les lois de pureté et d'impureté, lorsqu'une source de poterie a été impurifiée, on ne peut rien faire, il faut le casser. Alors on casse le four, il est impurifié, lézard mort a touché le four, d'accord, le four devient impur. C'est plus actuel aujourd'hui, c'est la loi de pureté et d'impureté de l'époque, bientôt Machar reviendra, on les aura de nouveau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont coupé, pas comme avec une hache, bong, ils l'ont cassé, ils l'ont coupé en lamelles. Des lamelles, et après, ils prennent du ciment, ils prennent une lamelle, ils mettent du ciment, une autre lamelle, du ciment, ils refont le même four. On l'a cassé, et on l'a refait. Est-ce que ce four, il est pur ou impur? Parce qu'après tout, tu as fait la même chose, ce qu'il y avait avant. Machloket, divergence d'opinion entre deux grands Tanaïm, deux grands Rabbanan Mishnah, Rabbi Eliezer, c'est le premier rabbin qui s'était dans la Mishnah. On l'appelle Rabbi Ezer Agadol, le grand, le seul rabbin à propos duquel il écrit le grand. Très grand rabbin. On dit que c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. L'incarnation de Moshe Rabbeinu. Contre Rabbi Yehoshua. Pas plus petit que lui, un très grand rabbin aussi, un Tana. Rabbi Yehoshua, il a dans cette bagarre avec Rabbi Ezer, il a tous les sages d'Israël qui sont avec lui. Et on a une loi qui dit que Yahriv Arim Hakarabim, lorsqu'on a une personne contre une majorité, on suit la majorité. Minorité même contre majorité, on suit la majorité en halakha. La Gemara nous raconte dans Bava Metzia le débat qu'il y a eu entre les deux. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que ce carubier, c'est un arbre là, se déracine et se pose 200-300 mètres plus loin. On voit le carubier, hop, qui se lève et se met à courir, tac, 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 et se pose là-bas. Rabbi Yehoshua dit, on n'amène pas des preuves de carubier. Bon, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que la rivière qui coulait comme ça s'arrête, se met à couler dans l'autre sens. Aussi dit, aussi fait, aussitôt fait. La rivière remonte dans l'autre sens. Rabbi Yehoshua dit un argument super fort, on n'amène pas une preuve d'une rivière. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que les murs du Beit Midrash, du Beit Midrash tombent. Et les murs du Beit Midrash se mettent à tomber. Rabbi Yehoshua dit, ne vous mêlez pas de cette histoire-là. Les sages d'Israël débattent, ce n'est pas votre affaire. Et les murs, on a dit que les murs du Beit Midrash sont restés penchés. S'ils se remettaient comme ça, c'est un manque de kavod pour Rabbi Eliezer, qui dit qu'elle tombe. S'ils se tombent, c'est un manque de kavod pour Rabbi Yehoshua, qui leur dit, s'arrêtez, ça reste penché jusqu'à aujourd'hui. À la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Sort une voix du ciel qui dit, Rabbi Eliezer a raison. Ah, c'est plus un petit coup de sorcellerie, c'est fortiche. C'est pas qu'on croit une voix du ciel, c'est vraiment comme ça. Rabbi Yehoshua a dit, Lo bashamayim hi, la Torah n'est pas dans le ciel. Elle a été donnée aux hommes. Quand les Tanaïm et Amoraïm, la Mishnah et la Gemara, tranchent quelque chose, même Dieu ne peut plus rien faire. La Gemara dit, qu'a fait Dieu à ce moment? Il a souri, il a dit, Natsruni banai natsruni, mes enfants m'ont vaincu, ils m'ont vaincu. C'est phénoménal. À un point tel, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a dans la Gemara une histoire. Les sages d'Israël ont lu un des livres qu'a écrit le roi Salomon, je crois que c'est Kohelet, l'Ecclésiaste. Donc les sages d'Israël ont voulu le retirer de Olam Haba. Je veux dire que c'est fait partie, c'est dans Père Écrelec, le dernier chapitre de Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il a pas, il fait partie des rois qui n'ont pas part à Olam Haba. Du coup, les sages d'Israël ont une vision. Non, tout à coup, un feu descend du ciel et se met à dévorer leur siège. Ils ont continué, nous, on n'est pas, c'est pas celle qui va nous dire quoi faire. Vient le roi David, en téléportation de Olam Haba, se matérialise devant eux, leur dit, je vous en supplie, ne faites pas ça. Bon, ils discutent, etc. À la fin, les sages d'Israël acceptent. Donc, Baruch HaShem, Shlomo fait partie du Olam Haba. La question se pose, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant que les sages d'Israël écrivent que Shlomo, le roi Salomon n'est pas parole à Olam Haba. Le roi Salomon, il est au Olam Haba, il est tranquille, vous pouvez en bas écrire ce que vous voulez, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que ça me fait, ce que le qu'en dira-t-on, on va dire, attendez, les journaux, on a sorti, ça, le roi Salomon ne fait pas partie de Olam Haba, dites ce que vous voulez, moi j'y suis, je suis très content là-bas. Si les sages d'Israël écrivent dans le Talmud que Salomon n'a pas parole à Olam Haba, eh bien, Dieu prend Salomon, désolé mon cher ami, en enfer. Tu n'as plus parole à Maba. Le pouvoir des sages d'Israël.
On
ne
leur a pas donné un peu trop.
On ne leur a pas donné un peu trop. Les anges ont cru cela.
Mais
c'est un cadeau. Hein mais tu sais, écoute, si on se prend pour ce qu'on voit dans la glace, tu as raison. Et tant qu'on comprendra quel pouvoir on a et c'est quoi les grands d'Israël, c'est quoi les sages d'Israël, on comprend.
Ils ont même plus peur de Dieu.
Pardon ?
Ils ont même plus peur de Dieu.
Que ils ont une grande crainte de Dieu.
Eux,
ils ont une grande crainte de Dieu, mais Dieu lui-même a dit, je vous donne la Torah.
Oui, il nous donne la Torah, mais il peut la modifier.
Il la modifie, bien sûr, et Dieu dit, ok, c'est vous qui décidez. Oui. C'est pas toi et moi, c'est les grands d'Israël. On ne peut pas changer la Torah comme on veut. Ce sont des grands d'Israël, ils ont la présence divine qui est avec eux. Ils sont d'un calibre énorme.
La présence divine, et là, il y a Dieu qui vient les voir, qui va leur dire, ne fais pas ça,
ouais.
Et eux, ils ne vont pas y croire. C'est-à-dire que finalement, leur présence divine, tout ce qui leur donne leur pouvoir, elle n'existe plus.
Si, Dieu existe, mais ce même Dieu m'a dit, je vous donne à vous. C'est à vous, terminé, je ne m'occupe plus de cela.
Et alors, le moment où Dieu dit quelque chose, on va le faire, peu importe que s'il y a une contradiction.
Quand je viendrai vous dire maintenant avec des signes du ciel que vous avez tort, vous ne m'écoutez pas. Il a dit, je vous donne à vous, ça veut dire c'est à vous. Terminé. L'Ova Shamaim Hi. Elle n'est pas, c'est un verset qui dit, elle n'est pas dans le ciel.
Elle n'est pas dans le ciel. Et ça ne veut pas dire qu'elle a été écrite dans le ciel. Donc finalement, lorsqu'on a un doute sur un livre, on va voir l'auteur. Là, c'est la même chose. On a un doute sur un livre.
Mais si l'auteur me dit, débrouille-toi. Et tout ce que tu dis maintenant, c'est vrai. C'est bon.
Mais une fois qu'il y a eu la voix du ciel qui est venue et qui a dit.
Aucune importance, rien. Wallo. Il y a un shoot, il y a des responsables, des livres de questions-réponses. Il y en a qui s'appelle Shoot Mina Shamaim. Question-réponse du ciel. C'est un rabbin médiéval qui rappelait des noms de Dieu, montait la nuit en rêve, posait des questions dans le ciel. Il est archi inconnu. On le connaît. Parmi 1000 livres qu'on connaît, c'est un livre. Mais il n'a pas plus de poids qu'un autre et sûrement beaucoup moins. C'est un livre qui dit comme ça, ok, c'est pas, on n'est pas. Ils ont dit, et alors, c'est pas le ciel qui fixe. Les anges sont là jaloux, c'est pourquoi. S'il y a encore un pouvoir dans le ciel, alors on n'est pas jaloux. Ils sont jaloux parce que ça a été donné dans la main des hommes. Attends, c'est pas le plombier du coin ou le légumier du coin, c'est les sages d'Israël. C'est énorme le pouvoir qu'ils ont. Énorme, énorme, énorme. Énorme. Maintenant, on parle d'il y a 2000 ans. Il est écrit qu'on n'écrivait pas le nom d'un rabbin dans le Talmud, c'était pas capable de ressusciter un mort et d'arrêter le soleil dans sa course. Tu comprends? De quoi on parle? Hein?
C'est un sage d'Israël, c'est pas de la sagesse de pouvoir ressusciter un mort.
C'est un pouvoir qui vient, c'est pas la sorcellerie, c'est grâce à la sainteté qu'ils ont. La présence divine qui est avec eux.
Le fait que la sainteté, elle vient pas à partir de la sagesse. Il n'y a jamais écrit que lorsqu'une personne sera sage, elle va avoir des super pouvoirs.
Si quelqu'un est sage en Torah, forcément il a la sainteté avec lui. On ne peut pas être sage en Torah sans qu'il y ait beaucoup de sainteté. Impossible. La Torah, ce n'est pas un apprentissage d'information. Pour qu'on soit grand Torah, il faut qu'on soit saint. Parce que c'est la pensée de Dieu. Et quand on n'est pas saint, ça ne rentre pas. Impossible. Tu vois que tu as des centaines de milliers de gens qui lisent la Torah, jour et nuit. Tu en as par-ci, par-là, quelques-uns qui deviennent des grands Torah. Et ça, ils ne sont pas bien, ces gens-là. Ils sont très bien, mais pas au niveau de sainteté, de Kudusha, de sainteté. Quand ils sont saints, ils ont la présence divine avec eux. Ils ont un calibre énorme de Torah, plus que tout. Racontez l'histoire. Ça va dans ce sens-là. Histoire terrible. On a beaucoup d'histoires terribles aujourd'hui. Elle est écrite dans Traité Shabbat, page 108. Shmuel, qui était le plus grand rabbin en Babylonie, Shmuel souvent, n'est-ce pas, avec son élève Karna, au bord du fleuve Hadekel, en hébreu, le Tigre. Et le Tigre à Rome et le Tigre à Bagdad, d'accord, après de Bagdad. Et il voit l'eau trouble. Il dit à Karna, il y a un sage qui est en train de venir, qui vient d'Israël. Il fait ses besoins et l'eau de la rivière du fleuve se soulève pour faire une muraille autour de lui pour qu'il soit en pudeur. Extraordinaire. Les deux sont Shmuel qui voit ça dans l'eau et effectivement qui était venu d'Israël, Rav. Rav qui était le plus grand rabbin d'Israël, énorme de énorme de énorme. Il quitte Israël, c'est en l'an environ 250 de l'ère chrétienne, et il arrive en Babylonie. Avec ça, on peut dire la gros de la Torah est partie d'Israël en Babylonie, en exil. Shmuel dit à Karna, va vérifier si c'est un Tamid Chacham. Je ne comprends pas. L'eau fait maintenant une muraille autour de lui. Il n'y a pas de question. C'est un grand homme. Oui, il a des pouvoirs, des choses, mais on veut être certain. Ça peut venir de toutes sortes de sources. Moi, je veux maintenant voir ce qu'il est grand en Torah. C'est ça qui m'est égal. Pas les miracles. Karna va lui poser des questions. Des questions relativement simples. Donc, c'est que la Brit Mila, ça se fait sur l'organe génital, pas marqué dans la Torah. Hein ? Il répond. C'est marqué, vous ferez ça qu'au mal. Donc, un endroit qui est différent. Non, on la prend différemment. Il y a un endroit parce que ça fait qu'au mal. Après, Orla, Orla. C'est marqué l'Orla, c'est le prépuce. Et aussi, l'Orla, c'est des fruits. Une chose qui fait des fruits, dans l'organe génital. Après, deux, trois questions. La suite, vous la verrez là-bas, elle est horrible. La suite de l'histoire. Mais en tout cas, le principe là, il est édifiant. Quelqu'un qui fait des miracles pour nous, c'est rien. Les sages d'Israël ont dit, Chacham, c'est ce qui est écrit dans le Talmud, Chacham Adif Minavi. Un sage est plus grand qu'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu lui parle. C'est énorme. Un sage d'Israël, c'est plus grand. Parce qu'il a la Torah. Ton problème et mon problème, c'est qu'on ne se rend pas compte ce que c'est. Surtout aujourd'hui, on se permet de parler sur le rabbinisme et les choses, c'est terrible. Même en Israël, les journaux, tout ça, c'est devenu. Heureusement, c'est marqué à la fin de Traité Ktubot, c'est ainsi que Mashiach vient, que les gens parleront sur le Talmid Chachamim, catégorie Talmid Chachamim, les gens vont accuser le Talmid Chachamim, toutes sortes de choses. C'est, quand Mashiach vient, c'est comme ça que ça doit être. Autre histoire qui va dans ce style. C'était, si vous voulez bien, Rabban Gamliel. Son fils est tombé malade et il envoie demander à Rabbi Han Ben Dosa qu'il prie pour son fils. Je ne suis pas certain des noms des deux acteurs-là. En tout cas, c'était un qui était le président, le grand rabbin président de l'État, et un qui était un grand tzaddik, Rabbi Han Ben Dosa, qui est donc aussi un sage d'Israël. Rabbi Han Ben Dosa, il jeûnait toute la journée. La Gemara dit, tout le monde est nourri grâce à Rabbi Han Ben Dosa, et lui, il suffit d'une petite quantité de karub par semaine. D'accord ? Sa femme, le rabbin Gamliel lui dit, je ne comprends pas, tu n'es pas un sage d'Israël, pourquoi tu as besoin que Rabbi Han Ben Dosa ait pris pour notre fils ? Prie-toi. Il répond, Rabbi Gamliel, moi je suis comme un ministre qui rentre chez le roi. Rabbi Han Ben Dosa, il est comme un serviteur qui rentre chez le roi. Tu as le roi. Qui est plus proche du roi ? Le serviteur ou le ministre ? Ben, le serviteur. Le ministre, quand il vient, il vient avec ses beaux habits, Ils se mettent les deux sur la table, dans le salon, ils ouvrent les cartes, ils regardent qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas des copains. Bon, le roi n'est pas copain avec le serviteur non plus, mais le serviteur, il rentre dans l'intimité du roi. Il nettoie ses toilettes, il lui fait son lit, il va en pyjama. Au milieu de la nuit, le roi, il a envie d'un coca, d'accord? Ding dong, il amène le serviteur et il lui donne un coca en pyjama. Le serviteur, il rentre dans l'intimité du roi. Donc, au niveau des prières, il est plus grand, il peut rentrer plus profondément chez Hachem. Mais après tout, qui est plus grand, le serviteur ou le ministre? Le ministre. Tu as des gens dans le peuple d'Israël qui sont des grands tzadikim et qui ont un pouvoir énorme dans leurs prières. Mais ils ne sont pas grands en Torah. C'est certainement des Talmid Chachamim, un tzadik ne peut pas être un tzadik sans connaître bien la Torah, il connaît bien, mais ce n'est pas des grands, grands, grands Torah. Qui est plus grand aux yeux d'Hachem? Le ministre. C'est clair, avec lui, on gère le royaume. Les grands Torah, ils gèrent le monde avec Hachem. C'est comme ça. Et la tendance, elle est d'inverser. Un prophète, il voit des choses. Il prie, ça se réalise. Le mieux, c'est qu'on ait deux à la fois. On a le Rav Abraham Kanevsky aujourd'hui, c'est et un grand Torah, et Baruch Hashem, et Ruach HaKodesh, et prophète, et tout ce que tu veux. Pas prophète, mais presque. Je vais raconter l'histoire avec le Rav Abraham Kanevsky, je le raconte. Je vais raconter mon voisin de palier. Tous les jeudis soirs, il est chez le Rav Abraham Kanevsky. Il me raconte qu'un jour, un couple rentre chez Rav Abraham Kanevsky, et c'est le petit-fils de Rav Abraham Kanevsky qui fait rentrer les gens, tout ça. Il pose une question, Rav Abraham donne une réponse. Le petit-fils dit à son père, à son grand-père, je comprends pas, grand-papa, hier, un couple est rentré avec la même question, tu as répondu exactement le contraire. Le grand-père répond, je t'ai déjà dit souvent, ce que Dieu me met dans la bouche, c'est ce que je dis. Extraordinaire. Donc, ça, c'est des grandes Torahs qui sont à la Rabbi Saint Bachar, la même chose, c'était énorme en Torah, et aussi, il avait toutes sortes de pouvoirs, Ruach HaKodesh, etc., et changer des choses, pouvoir de prière absolument colossal. Donc ça, c'est le top si on a. Mais si on a maintenant les deux, t'as un Mekoubal, un Tzadik, un tout ça fait des prières, et t'as maintenant un grand Torah, alors quand t'as besoin maintenant d'une bracha, va prendre chez le Mekoubal, il n'y a aucun problème, parce qu'il a un pouvoir de prière. Mais en tant qu'homme qui dirige la nation, en tant qu'homme grand, aimé d'Hachem, il n'y a pas plus grand qu'un Tamid Chacham, quelqu'un qui connaît la Torah. C'est ça. En parenthèse, le Mashiach que nous attendons, Rabbi Shlomo Machaoli m'a dit, il doit connaître toute la Torah. Il doit pas être un grand sadique, il doit être un grand sadique, etc. Mais ce n'est pas ça le critère. Le critère, il doit connaître toute la Torah. C'est très pratique de dire ça. Pourquoi? Parce que tu as tellement de clients, de gens qui se prennent pour le Mashiach. C'est une maladie chronique, d'accord? J'en ai un toutes les semaines qui m'appelle. Ça y est, je me dévoile bientôt, etc. Pourquoi ils m'appellent à moi, d'accord? Une fois, j'en ai eu deux. Alors, j'ai dit, écoutez, il y a un problème. Il y a un deuxième qui dossier. Je les ai mis en contact les deux. J'ai donné les mails pour qu'ils se débrouillent entre eux. C'est une maladie psychiatrique connue. Ça provient d'un ego surdimensionné qu'on se prend pour le Mashiach. Alors quand on leur... Rafshem, on va dire une belle histoire de Rafshem, c'est un petit peu venu voir Rafshem, voilà, je suis Mashiach. Ah, fantastique! Alors dis-moi s'il te plaît, allez, on commence. 321 fois, je me souviens bien le chiffre, 321 fois dans l'Agma, c'est marqué Teko. Teko, c'est un Tishbi, Itares, Kushiyot, Veshelot. Tishbi, le Tishbi, c'est Yohan Avi, viendra et répondra aux questions. Teko, ça veut dire on ne sait pas quoi faire. On n'a pas la réponse à cette question. Alors, réponds-moi, s'il te plaît. Lip, on lui parle, il comprend même pas de quoi on parle, d'accord? À coup de la plaque, allez, disqualifié. Mashiach, il doit être un grand, grand, grand Torah. Il ne sera pas Mashiach parce qu'il sera il sera prophète. Il fera des miracles. Il sera un tzadik extraordinaire, mais ce n'est pas ça qui fixe le critère. Grand en Torah, s'il y a ça, il y a, peut-être. S'il n'y a pas ça, c'est certain qu'il n'y a pas. Donc, le problème, c'est qu'on ne comprend pas c'est quoi les grandes Torahs. Ils ont un niveau énorme, voilà. Au point tel où ils fixent la réalité. Parce que qu'on ait la chance d'être au moins des petits Talmidei Chachamim. C'est possible des grands aussi. Mais vous peut-être. Moi, mon âge est encore un peu difficile. Baruch Adonai, Amen.